Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Plus qu'un jour de réflexion pour les Britanniques avant de se rendre à nouveau dans l'isoloir. Nouvelles élections générales demain, jeudi, convoquées par la conservatrice Theresa May. Et pour les Écossais, une certaine lassitude et perplexité. Ils avaient voté en majorité contre le Brexit en juin dernier et les voilà appelés à voter pour la cinquième fois en quatre ans. Ils ne sont peut-être pas au bout de leur peine. Nicola Sturgeon, la First Minister, veut organiser une deuxième consultation sur l'indépendance. Ces Brexit elections sont donc un vrai casse-tête pour les Écossais. Lesquels de leurs convictions doivent primer, pro ou anti-Brexit, pro ou anti-indépendance? Le choix est compliqué et le reportage de Marie Billon commence devant l'ancien Parlement écossais.
Juste derrière l'imposante cathédrale St Giles, sur la fameuse rue principale pentue d'Édimbourg, le Royal Mile, où les passants s'arrêtent pour écouter les joueurs de cornemuse, il y a un vestige peu connu de l'histoire écossaise, l'ancien Parlement national, aujourd'hui transformé en cour de justice. C'est ici que Peter Sellar, un avocat, nous a donné rendez-vous, et ce n'est pas un hasard.
C'est ici où les parlementaires d'Écosse, il y a 300 ans, ils ont décidé d'abolir le Parlement écossais pour réunir avec le Parlement anglais à Londres. Et 200 et quelques ans plus tard, ils ont décidé d'avoir un autre parlement, un nouveau parlement, qui sert un autre rôle, différent, moderne, mais un peu limité. Maintenant, aujourd'hui, on est dans la campagne d'une élection générale, mais ça c'est une élection générale pour le parlement à Londres, Grande-Bretagne. Mais c'est dans le contexte moderne d'aujourd'hui, c'est important à quand même regarder un peu en arrière ce qui s'est passé dans l'histoire pour voir ce qui peut se passer dans l'avenir.
Peter Sellar se met en route. Il tient à descendre le Royal Mile de l'ancien Parlement jusqu'au nouveau qui se trouve tout en bas, bâti à la fin des années 90 lors de la vague de décentralisation.
Ici, on est sur la rue principale qui s'appelle High Street, c'est dans l'ancienne ville d'Écosse qui date de à peu près 12e siècle, qui est face à la nouvelle ville qui date de 18e siècle. Mais la nouvelle ville, ça c'est une bonne chose, par exemple, de l'Union. C'est grâce à l'Union avec l'Angleterre qu'on a pu développer, investir dans cette belle ville. La richesse d'Écosse vient de l'Union.
Pourtant, Peter est loin d'être un unioniste à tout prix. Il a voté pour l'indépendance en 2014 et il a voté non au Brexit. Pour Peter, le problème, c'est que Londres et beaucoup d'Écossais ne connaissent que ce nouveau Parlement moderne de bois et de verre. Ils ont oublié l'existence de cette ancienne chambre législative en pierre.
Les Écossais et les Anglais ont décidé de se réunir. Mais pour avoir une union, il faut avoir deux partis, il faut avoir deux pays en fait. Et là maintenant, aujourd'hui, on oublie le fait qu'on a été deux pays indépendants. Et pourquoi est-ce que c'est important à se souvenir de tout ça? Parce qu'on se trouve dans la situation où le Brexit a été décidé sur la question est-ce que le Royaume-Uni devrait sortir de l'Union? Ça, c'est un pays. Alors, mais c'est un pays avec quatre nations. Et l'Écosse a exprimé sa voix, a dit non, 62% contre 30%. Il nous dit tout simplement, en anglais, on dit « like it or lump it ». Soit tu l'acceptes ou soit tu l'aimes, mais il n'y a pas d'autre option. Pour moi, il doit y avoir quand même une nuance. On peut avoir le Royaume-Uni toujours intact et aussi l'Écosse en Europe. C'est possible.
C'est exactement la ligne de pensée de la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon. Elle veut un siège à la table des négociations à Bruxelles. Elle veut que l'Écosse puisse rester dans le marché commun.
On est arrivé à la fin, c'est le bout du Royal Mile. C'est le Parlement écossais qui est le nouveau Parlement, qui est vraiment moderne comme tout.
C'est donc ici qu'en mars dernier, l'Assemblée écossaise a voté en majorité pour la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Et Peter espère bien qu'il aura lieu. Sinon, il se sentirait nié dans son identité écossaise. Il se sentirait nord-britannique, dit-il, traîné dans un Brexit unique par le reste du Royaume-Uni. De l'autre côté de la gare de Waverley, qui sépare le vieux et le nouvel Édimbourg dont Peter parlait, nous retrouvons quelqu'un avec qui il a travaillé lors de la campagne contre le Brexit, John Edwards. Il était le porte-parole de Stronger Inn en Écosse. Il nous a donné rendez-vous dans un café au premier étage d'un vieil immeuble avec vue sur l'imposant mémorial en pierre du grand écrivain écossais Walter Scott. Une figure historique que les unionistes et indépendantistes se disputent. John, en tout cas, n'est pas vraiment pressé de retourner en campagne.
Je crois que les gens sont fatigués de devoir répondre si souvent à ces questions existentielles. Êtes-vous écossais ou britannique? Ou les deux? Ou rien de tout cela? Ou encore, êtes-vous européen? L'idée d'affronter un troisième référendum à ce sujet, c'est usant.
Malgré tout, lui-même, qui a voté contre l'indépendance en 2014, se dit prêt à envisager de voter « yes » si l'occasion se représente. Les Écossais ont besoin de l'Europe.
Nous sommes un petit pays de 5 millions d'habitants, tout au bout de l'Europe, au nord-ouest. On est déjà bien plus loin de notre marché que nos compétiteurs. Alors, ajouter en plus de nouvelles barrières, ça pose vraiment un problème. J'ai toujours dit que les Écossais n'étaient pas plus pro-européens, ils sont juste moins anti-européens. Il n'y a pas un grand amour pour les institutions de l'Union, on en a juste besoin. Et nous n'avons pas connu les vagues d'immigration comme le reste du pays.
Il est 18h. Dans les rues se déversent des travailleurs qui rentrent chez eux. L'occasion de demander aux Écossais qui attendent le bus si, comme John et comme l'espère Nicolas Sturgeon, ils seraient prêts à envisager l'indépendance à cause du Brexit.
À cause du Brexit et deux ou trois autres choses, je commence à penser que ce serait mieux si on était indépendant tant qu'on reste dans l'UE.
Avant, j'étais vraiment contre l'indépendance, mais vous m'auriez redemandé le lendemain du vote pour le Brexit, j'aurais répondu oui, sans aucun doute. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre de rien, car ce n'est pas certain qu'on puisse rester dans l'UE, donc ça ne ferait qu'ajouter de l'incertitude à l'incertitude.
Moi, le Brexit, je suis contre. Je veux rester européenne. Mais l'indépendance, jamais, 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 ça ne marchera jamais. Je n'y crois pas du tout. Nicola Sturgeon ne me convaincra jamais. Cette femme se trompe. Elle pense qu'il suffit de nous rabattre les oreilles. Non.
Le ras-le-bol du SNP grandit en Écosse et le parti se prépare à perdre un certain nombre de sièges gagnés lors de leur vague de succès en 2015. Même s'ils essaient de rectifier le tir désormais, les nationalistes n'ont pas assez pris en compte ceux qui ont voté pour l'indépendance, mais qui étaient aussi farouchement pro-Brexit. C'est compliqué, dit cette dame et beaucoup d'autres en montant dans leur bus. La journée de travail est terminée, mais le casse-tête électoral prend le relais à la télévision et dans les chaumières.
A Belfast town, rantin', roarin', ramblin' round. We're Irish men of high renown. That's the boys of Belfast.
Et en Irlande du Nord, le choix n'est pas plus facile pour ces électeurs qui s'étaient très largement prononcés contre le Brexit. Troisième scrutin depuis un an dans la province et même conséquence qu'en Écosse, la fatigue commence à se faire sentir malgré une participation inattendue en mars dernier. Un sursaut démocratique qui avait placé le camp nationaliste à quasi égalité avec celui des unionistes. Mais pour ces élections générales, le cœur n'y est plus. À Belfast West, Julien Lagache a rencontré des Nord-Irlandais plutôt désabusés.
Le long de Falls Road, l'avenue qui part du centre de Belfast pour rejoindre le cimetière de Milltown au sud-ouest, on ne voit que les affiches des candidats nationalistes ou républicains. Une voiture du Sinn Féin va et vient en musique autour du quartier. Elle affiche logo du parti et drapeau irlandais. Pas de doute, nous sommes en terrain catholique. Finbar Nolan fume une cigarette devant le Rock Bar. Jeudi, il se rendra aux urnes.
Bien sûr, j'irai voter. Je ne vous dis pas pour qui, mais vous pouvez deviner.
À 58 ans, il a toujours glissé dans l'urne un bulletin du Sinn Féin, comme beaucoup de gens d'ici, très attaché au thème de prédilection du parti. Plus qu'une adhésion, c'est une tradition.
On a tous été éduqués comme ça. Ça fait 8 siècles qu'elle dure cette guerre et je ne vois pas d'issue. À moins qu'on s'occupe de certains sujets, par exemple la gestion de notre passé et une loi sur la langue irlandaise. Dans ce cas-là, on pourra avancer main dans la main. Mais pour l'instant, c'est comme ça, on ne nous accorde rien, alors qu'on est en Irlande du Nord, pas en Angleterre du Nord. Ils croient qu'ils possèdent cet endroit, mais ce n'est pas le cas.
Beaucoup d'autres, surtout de l'ancienne génération, iront voter comme Finbar pour les mêmes raisons. Mais parmi les plus jeunes, l'écho de ces revendications est moins fort. Au contraire, Robert McCracken, jeune ouvrier dans le bâtiment qui se définit comme républicain, ne se sent pas du tout politisé.
Pour moi, tous les partis politiques sont nuls. D'ailleurs, ils n'arrivent jamais à réaliser ce qu'ils promettent. Ils ont un programme, d'accord, mais comme ils ne changeront rien une fois élus, je ne vote pas.
Surtout que l'Irlande du Nord ne compte que 18 sièges sur 650 au Parlement de Londres, un sentiment d'impuissance qui renforce un désintérêt croissant pour la politique, y compris nationale. Si les anciennes générations sont habituées au blocage idéologique entre le parti protestant, le DUP, et les catholiques du Sinn Féin, les jeunes comme Paul et Stephen les sanctionnent désormais par l'abstention.
Je ne vais pas voter, quel intérêt ? Le DUP et le Sinn Féin ne vont toujours pas travailler ensemble, donc ils seront payés, mais pour ne rien faire, alors pas de vote.
C'est une ambiance de chaos, ça se ressent. Ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas, ils n'écoutent pas. Ils se sautent à la gorge pendant que nous, on observe ça de loin. C'est assez déprimant.
À quelques centaines de mètres de là, au nord du mur de la paix qui se dresse depuis la période des troubles entre les communautés de Belfast Ouest, le scrutin ne soulève pas plus d'enthousiasme dans l'entourage de Lillian, femme de ménage retraitée. Elle habite depuis toujours près de Shankill Road, la grande artère protestante.
On ne peut pas vraiment faire confiance aux politiques. Il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et les jeunes voient ce qui se passe. Du coup, la politique ne les intéresse plus. Aucun de mes 4 petits-enfants ne veut aller voter. J'en ai un qui vit en face. Il peut tout vous dire de la politique américaine, Donald Trump, tout ça. Mais la nôtre, il s'en fiche.
Lillian admet elle-même ne plus trop suivre l'actualité. Elle croit savoir que le Premier ministre britannique est une femme et elle ne sait pas si elle ira voter. Un peu plus loin, Brian, 59 ans, sort lui d'un pub. Il a une idée de candidat à qui donner sa voix, mais il ne se fait aucune illusion et quand il parle de politique, c'est bien souvent sans espoir.
Quel que soit leur candidat, de toute façon, c'est le Sinn Féin qui va gagner parce qu'il y a une plus forte population catholique dans la circonscription. Malgré ça, j'irai quand même voter. Mais à la fin, le Sinn Féin gagne et il n'envoie jamais ses députés à Westminster. Alors quelle différence ça peut faire ?
Un sentiment de découragement visiblement partagé par les membres des deux communautés qui disent tous aspirer avant tout à une vie paisible avec des services qui fonctionnent. Beaucoup de gens affichent une grande lassitude et sont de moins en moins indulgents envers les deux grands partis qui dirigent le pays.
C'est une augmentation inquiétante que pointe l'Observatoire européen des drogues dans son dernier rapport. Il constate une hausse dangereuse de la création de nouvelles drogues, souvent fabriquées en Chine et vendues sur le dark web. Ce sont par exemple des opiacés de synthèse qui imitent les effets de l'héroïne, mais de manière plus forte. Et la conséquence de l'utilisation de ces produits dangereux, eh bien c'est un nombre de morts par overdose bien plus élevé. Laxmilota.
Une augmentation du nombre de morts pour la 3e année consécutive, plus 6% par rapport à l'année précédente. Plus de 8000 personnes sont décédées d'une overdose en Europe, Union européenne, plus la Turquie et la Norvège en 2015. Des décès principalement dus à l'héroïne et d'autres opiacés. Alexis Gousdil, directeur de l'Observatoire européen des drogues, met en garde contre la circulation de nouvelles substances de synthèse.
L'effet est plus fort, ce sont des substances qui sont beaucoup plus puissantes. Certaines ont jusqu'à 300 ou 400 fois la force ou l'effet de la morphine, par exemple. Et comme je disais, certaines de ces substances, avec un dixième de gramme, vous pouvez produire 10 000 doses.
Ces opiacés de synthèse se retrouvent notamment en vente sur le web profond. Le travail des services de lutte antidrogue devient plus difficile également. Alexis Gousdil.
Il n'est pas nécessaire d'en transporter un camion entier pour avoir un nombre important de doses à commercialiser. Et donc pour toutes les forces de l'ordre, mais aussi pour les douanes, pour le contrôle des services postaux, c'est beaucoup plus difficile de détecter certaines de ces substances parce qu'elles circulent parfois en très petites quantités. Le risque d'un décès par overdose est beaucoup plus élevé, y compris pour le personnel de sécurité ou de contrôle, puisque certaines de ces substances peuvent même passer à travers la peau.
En 2016, 66 nouvelles substances psychoactives ont été détectées en Europe.
Freedom inside. La chronique des jeunes européens.
Les jeunes encore avec des préoccupations plus terre à terre et qui influencent leur vie de tous les jours, car c'est une part incontournable de leur budget. Sans titre de transport, pas de mobilité, donc souvent pas d'études, ni de travail, encore moins de loisirs. Certaines capitales européennes l'ont bien compris et tentent de permettre aux plus jeunes et aux plus démunis de bénéficier de tarifs préférentiels. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, nous faisons avec vous un petit tour d'Europe des métros, bus et autres trams les plus abordables.
Eh oui, car qui dit grande métropole européenne dit nombreux trajets dans la journée, généralement pour se rendre de son logement à l'université ou à son lieu de travail, parfois en centre-ville, parfois encore plus excentré. La carte des transports est un véritable sésame qui ouvre toutes les portes, mais elle a un prix qui diffère largement d'une ville européenne à l'autre. Nos confrères de Café Babel se sont donné la peine de faire une carte animée pour pointer les différences de traitement des jeunes voyageurs quotidiens européens.
Alors, il y a d'abord la bonne élève, la capitale espagnole, avec une carte jeune au prix défiant toute concurrence.
Après plusieurs pétitions citoyennes, la ville de Madrid a diminué en 2016 le tarif de sa carte mensuelle à destination de tous les Madrilènes de moins de 26 ans. Jusque-là, ils étaient assujettis à l'abonnement normal, environ 50 euros par mois. Mais avec la situation que l'on connaît, un taux de chômage parmi les plus hauts d'Europe pour les jeunes, une précarisation de la jeunesse, la ville a fait un geste, 20 euros pour parcourir tous les réseaux de transport en commun en illimité. Deux fois moins que sa rivale Barcelone, qui propose un pass à 42 euros pour les jeunes. Seule la ville de Milan en Italie se rapproche à peu près de ce tarif, 22 euros par mois pour les moins de 26 ans.
Alors, en décidant de réserver un tarif préférentiel aux moins de 26 ans, ces trois villes se distinguent de leurs voisines.
Oui, en gros, au niveau européen, un modèle dominant se dégage, celui d'un tarif dit normal, qui diffère en fonction du nombre de zones choisies et qui est très différent en fonction des pays. Généralement, un autre tarif préférentiel est réservé aux seuls étudiants. C'est par exemple le système choisi par la ville de Paris. Vous paierez 73 euros par mois si vous êtes un jeune travailleur, disons de 22 ans, mais seulement 30 euros par mois si vous êtes étudiant, toujours à 22 ans.
Alors Paris qui a récemment pris l'option d'un pass à prix unique, quelle que soit la distance parcourue.
Oui, souvenez-vous, il y a quelques années, on en a beaucoup parlé, le pass Navigo unique. En réalité, cela fait du voyageur transilien l'un des Européens les mieux lotis. Il peut parcourir sans limite toute la région pour le même prix qu'un Parisien intramuros. La plupart des autres capitales européennes continuent d'observer un système de zones. En gros, plus vous habitez loin, plus cela va vous coûter cher. À Londres, par exemple, même si une réduction de 30% est appliquée pour les étudiants sur tous les tarifs, cela fait quand même très très mal au porte-monnaie. Les transports publics londoniens font partie des plus chers d'Europe. 66 pounds pour une seule zone et cela peut monter jusqu'à 300 pounds si vous habitez en lointaine banlieue par mois.
Alors à noter, une alternative intéressante pour les étudiants également, le système berlinois.
À Berlin, le pass pour les transports publics est contenu dans l'inscription universitaire. Alors ça, c'est super, ça règle le problème pour les étudiants, mais cela ne résout rien pour les stagiaires et les jeunes travailleurs, par exemple, qui, eux, paieront leurs billets comme leurs aînés, et ce, quelles que soient leurs ressources.
Et donc, pour les jeunes qui ne sont plus à la fac ou en apprentissage, où est-il préférable d'habiter quand on a un tout petit budget?
Sans trop de surprise, c'est dans les pays du Sud que les transports sont les plus attractifs, mais les mauvaises langues diront aussi qu'ils ne sont pas très étoffés. Ainsi, à Athènes, tout le monde est au même tarif, 30 euros par mois, à peu près comme Sofia et Bucarest et à Rome, vous vous en sortirez pour 35 euros par mois.
Alors globalement, Eve, il y a encore du travail à faire du côté des pouvoirs publics.
Oui, car selon une enquête réalisée au printemps par Ipsos et Boston Consulting, les Européens préfèrent encore largement la voiture, car ils considèrent les transports en commun trop peu fréquents, trop éloignés de leur résidence ou en manque d'investissement public. Sur les 9h35 tout de même, en moyenne passées par semaine par les Européens dans les transports en général, seulement 1h40 est passée en train, bus, tram ou métro peut mieux faire.
Merci Eve Minot.
À la semaine prochaine.
Merci de nous avoir suivis à la réalisation. Il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants journal.